Les greniers de Léo Ferré.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou mon drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Bonjour et bienvenue dans nos greniers. Est-ce ainsi que les hommes vivent? C'est avec cette funeste question que nous ouvrons aujourd'hui le premier volet de la série de 3 émissions que nous consacrons à Léo Ferré. Exergue et emprunt de Ferré à Aragon lorsque, au début de sa deuxième carrière, en 62 exactement, Ferré sort chez Barclay son fameux 33 tours Aragon. Ferré. Les pas d'un poète musicien dans les mots d'un autre, donc, Ferré, poète anxieux, brutalement inspiré par le réel et qui nous disait à l'instant qu'il jugeait que ses rêves étaient trop courts, Ferré, poète en colère, Ferré, taraudé par la possibilité d'exister et de s'extasier, de dire « c'est extra » dans un monde qu'il jugeait plus fréquemment douloureux et sordide que joyeux. Il ne baptisait pas pour rien la source de son anarchie d'un mot définitif, désespoir. L'anarchie, disait-il, est la formulation politique du désespoir. L'ensemble de ces mots nous renvoie à l'inspiration du premier Léo Ferré. Elle a souvent la couleur de la nuit, puisée parmi le petit peuple des rues sombres et interlopes. Ferré des aurores blêmes, Ferré le révolté par l'injustice du monde et de la vie aussi. Ah, il ne fut pas que cela, assurément, il fut aussi celui qui chantait les bonheurs Java, Tango, Musette et les Moody Blues. Et puis il chanta l'amour aussi. Mais révolté, il le fut avant tout peut-être, tout autant que poète. À moins que la poésie ne soit une révolte, ce qui est à discuter. Alors, pour ce matin, c'est par un léger fil biographique que nous nous glisserons dans les pas de ce révolté, un homme qui disait que ses révoltes étaient nées de ses blessures, celles qui firent la nature de son épiderme, gorgé de poésie, écorché vif, celles qui firent son tempérament, libre, rebelle, corrosif et d'une allégresse goguenarde, celles enfin qui firent son engagement, anarchiste d'intuition autant que de réflexion, semble-t-il. Parmi ses blessures, l'enfance, oui. L'enfance, elle a sa part douce, bien sûr, et il l'a souvent dit, avec émotion, et il l'a même chanté. Mais il y a aussi la part plus douloureuse de ses vertiges intérieurs. Il s'est très tôt senti incompris, enfermé. Enfant artiste, disait-il, ça n'est pas facile, se décernant en quelque sorte, et a posteriori, une prédestination à l'art. Voici donc Léo Ferré, qui naît dans la petite bourgeoisie monégasque, un 24 août 1916, la fête de Saint-Barthélemy, un autre écorché vif, au sens propre cette fois-ci. Alors commençons donc par ses années monégasques, l'enfance. En 1971, le chanteur est interrogé sur Benoît Misère, roman autobiographique, et il parle de la solitude de l'enfance, par quoi, déjà, tout lui semble vouloir se dérégler. Ou comment poussent les mauvaises graines, les graines d'ananar.
On ne connaît pas l'enfant. On s'occupe beaucoup des enfants. On s'occupe des enfants, on s'occupe de leurs études, on s'occupe de leur rhume. On s'occupe de les montrer, de dire c'est, j'ai un gosse qui est le plus beau du monde, qui est le plus merveilleux. Les gens, ou alors on dit ce gosse, il est comme ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il apprenne à se tenir bien à table et tout ça. On s'en occupe. C'est un visage double, n'est-ce pas, de la parenté. Mais en définitive, on ne sait pas qui est-ce. L'enfant, on ne sait pas, on ne connaît pas. Il n'y a que lui qui connaît, encore, lui ne peut pas s'exprimer. Il faudrait ouvrir la tête des enfants pour voir ce qu'ils ont dedans, et puis après, agir en conséquence.
Et cette misère est peut-être plus psychique que matérielle.
Sûrement, d'abord, jamais matérielle, parce que moi, j'ai jamais été misérable, jamais, du tout, non. Et je trouve d'abord, misère, c'est un joli mot. Et puis, c'est la misère, comme vous dites, psychique, quoi, qui est une misère abominable. La misère physique, on s'en sort toujours. Vous savez, dans nos pays, on meurt pas de faim, c'est pas vrai. On peut toujours travailler le minimum par jour pour acheter un bout de pain pour manger. Hein. Non, la misère intellectuelle est beaucoup plus tragique que l'autre. D'ailleurs, les mauvais souvenirs sont toujours des souvenirs psychiques. Jamais, on ne se rappelle pas des mauvais moments matériels.
C'est bien d'accord, quand j'étais môme, les filles avaient une fleur exquise qu'elles nous fanaient pour de baisers. Quand j'étais môme, on avait aussi nos idoles, Daniel Darieux, on ne fait pas mieux. Marcher nos belles guiboles dans les dancing et dans le smoking. Papa, quand j'étais môme, la musique coulait comme du miel à Europe 1 sur les copains. Quand j'étais môme, les filles qui étaient encore pucelles, on les mettait dans un musée. Quand j'étais môme, on avait aussi nos idoles. C'était Johnny ou quoi, ou qui? On faisait du rock et de la bricole un peu partout avec les sous, papa. Quand tu seras môme sur des planètes distinguées, on t'apprendra le temps d'aimer. Quand tu seras môme, les filles auront la voie lactée et des comètes dans le tablier. Quand tu seras môme sur ton palier en guise d'idole, une nébuleuse ou pételgeuse, quand tu seras môme, on t'apprendra la bonne parole, la bonne recette pour jamais être papa. Il n'y aura plus de môme, plus jamais de môme, il n'y aura plus rien, pas même un chien, un pauvre chien, il n'y aura que du vent et plus d'amants. Il n'y aura que la lune qui fera le tapin pour les savants, pour les savants, pour les savants.
Quand j'étais môme, enregistré en 1964. Restons un peu dans l'enfance. Celle de Léo Ferré se passe donc à Monaco, puis vient le temps de l'internat, dans un collège religieux, Saint-Charles de Bordighera, en Italie. Expatriation par le vœu d'un père très pratiquant. Institution fermée. La prison, disait Léo Ferré. 25 kilomètres à vol d'oiseau de l'autre côté de la baie de Menton, pour se retrouver entre ces murs, juste de l'autre côté de la frontière, où l'institution s'est retranchée depuis la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Ni un lieu de liberté, ni un espace de libre expression. C'est là que l'enfant de cœur fait son premier apprentissage musical et des lettres, mais là aussi qu'il fourbit ses armes de révolte par une première distillation, l'anticléricalisme. Léo Ferré, au micro de Jacques Chancel en 1969.
Ah oui, mais alors ça, j'aurais trop à vous raconter, vous savez. Ça, je suis pas d'accord. J'ai passé 8 ans dans un collège religieux. Pendant 8 ans, j'ai été à la messe tous les matins. Pendant 8 ans, j'ai servi la messe presque tous les matins. Et j'ai eu affaire des gens qui... En voilà des complexés, tiens. C'est normal. Ouais. Il est tout de même curieux que, comme je dis, il y a une chose que je comprends pas, que les femmes religieuses sont en robe. Hein? Et pourquoi les hommes religieux, pourquoi on leur met des robes aussi? C'est très curieux, ça. Et ça m'avait toujours inquiété. Et alors, je regardais ces gens-là et je l'ai supputé, enfin. Ce sont des gens qui généralement, n'étaient pas très, très soignés, parce que on sentait que dans ce monde-là, il manque de femmes dans le monde religieux. Vous comprenez? Ça m'a gêné, d'ailleurs. Ça sentait pas Chanel non plus, vous comprenez? Et puis, ça sentait un peu le fouet derrière les yeux avec des bizarres envies, vous savez. Quand on est dans un collège religieux, quand on est jeune garçon comme ça, on risque à un certain moment de dévier dangereusement. Et il y a beaucoup de malfaiteurs dans ces maisons-là.
Monsieur Doublon, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Doublon, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. monsieur tout blanc. L'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite, monsieur tout blanc, entre nous, dites. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur tout blanc, si vous partez un beau matin, les pieds devant, pour vos châteaux en paradis, monsieur tout blanc, le paradis, c'est peut-être joli. Priez pour moi, moi, j'ai pas le temps, car je vivrai toujours à Aubervilliers. Avec deux bras noués autour de ma misère, on n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur tout blanc, si j'enseignais la charité bien ordonnée, dans mes châteaux d'Aubervilliers, monsieur tout blanc, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner.
Monsieur tout blanc, charge antipapale contre le Vatican de la fin des années 30 et de la guerre, un peu silencieux, c'est vrai. La version est de 1953. Léo Ferré la grave pour son deuxième disque au Chant du Monde. Il en avait enregistré une première version en 1950. Après Bordighera, Léo Ferré monte à Paris une première fois. Il y fait son droit et Sciences Po. Il est donc parisien de 1935 à 1939. Mobilisé en 1940, puis rapidement démobilisé sans avoir combattu, il retourne vers sa Côte d'Azur natale. Il y travaille pour Radio Monte Carlo. Il commence à écrire quelques chansons et à fouler ses premières scènes de cabaret. Mais avec sa première femme, il vit vraiment très chichement. La guerre est là, lourde chape sur son besoin de musique, sur une vocation désormais chevillée au corps, écrire et chanter à plein temps. Un rêve salement refroidi par une rencontre avec Charles Trenet. Nous sommes en 1941.
Oui, ça m'avait frappé, ça. J'avais été à Montpellier et j'avais été voir le spectacle de Charles Trenet, que moi j'aimais beaucoup, c'était un petit peu extraordinaire. Et je savais que son pianiste, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait un nom avec deux prénoms, quoi, qui était aussi impresario. Alors j'étais le voir, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me recevoir? Je voudrais vous faire écouter deux, trois chansons, je chante des chansons, ça, en m'accompagnant au piano. Alors il me dit, venez à la fin du spectacle. J'ai rien demandé à traîner, moi. Je le connaissais pas, puis j'aurais jamais osé, quoi. Alors, je suis arrivé, et quand je me suis mis au piano, j'ai vu traîner, il était dans le fond de la scène. Il m'a vu, il est venu vers moi, il s'est accoudé au piano, et il m'a écouté. Alors, moi, j'ai chanté, j'étais un peu ému, parce que hein, c'était un type terrible. J'ai fini, et le traîner me dit, c'est très bien, mais je dois vous dire que vous ne chanterez jamais vous-même vos chansons. Alors, vous avez compris pourquoi.
Mmh. tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard, quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, mais pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime, qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps, on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis on sort. On va crier une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du temps, ça fait parfois de ses boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien. Ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu. Avec les ans, tout est foutu. Alors on maquille le problème. On se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
« 20 ans », une version du 26 décembre 1962 enregistrée à l'ABC et tirée d'une bande Radio Francina que nous avons débusquée pour vous. Léo Ferré est plutôt un tout jeune trentenaire lorsqu'il revient à Paris peu après la libération dans les bagages de Francis Claude, ami et mentor à la fois, grâce auquel il affirmera peu à peu sa propre personnalité de chanteur et avec qui il écrira notamment « La vie d'artiste » et « L'île Saint-Louis ». Car si de 1946 à 1950, Léo Ferré passe ses soirées et ses nuits à jouer dans les cabarets, au Code Libet ou au Trou, il n'enregistre pas. Il est d'abord reconnu comme parolier. À partir de 1947-48, pour Yvette Giraud et Suzy Solidor, ses deux premières interprètes. Alors il écrira aussi pour René Lebas, Eddie Constantine, Marc et André, et puis pour Édith Piaf, qui popularisera en 1948 son premier succès, Les Amants de Paris, et quatre ans plus tard, pour Yves Montand, à qui il donne Flamenco de Paris. Deux chansons sur Paris, Paris qui lui porta finalement chance. Zoom arrière avec Francis Claude qui nous raconte sa rencontre avec Léo Ferré par l'entremise de Claire Bourgenot, productrice sur Radio Monte Carlo, où Léo Ferré est alors homme à tout faire.
Elle me dit, oh, je connais un personnage, il faut que je le fasse connaître. Fantastique. Je lui dis, ah oui, qu'est-ce qu'il fait? Elle me dit, il chante et il se fait appeler Léo de Hurletout. Ah, c'est un beau programme ça. Et son vrai nom, il s'appelle Léo Ferré. Oui. Et il hurle tout. Ah, oh, il hurle tout, il n'y a pas de question. Je voudrais vous le présenter parce que vraiment, je crois qu'il peut vous intéresser. Alors, évidemment, je dis oui, moi. Hein. Et elle m'amène Léo, qui arrive avec un curieusement accoutré. Il avait un capuchon d'écolier bleu, ou comme on en les facteurs aussi, vous savez, avec un petit capuchon derrière, une cape. Et c'était elle qui lui avait prêté, c'était la cape avec laquelle elle allait à l'école, la môme. Alors, il arrive, et puis on discute le coup. Tout de suite, il me plaît. Et il me chante... Le scaphandrier, la chambre et deux ou trois trucs du même style. L'esprit de famille. Je me dis, mais nom de Dieu, mais c'est pas du talent qu'il a ce mec, c'est du génie.
Mais
ton habit scaphandrier. Descends dans les yeux de ma blonde. Que vois-tu, bon scaphandrier? Le voisin étrange attiraille des fleurs, des oiseaux. Et de l'or en fine paillette. Mais ton habit scaphandrier descend dans le cœur de ma blonde. Que vois-tu, bon scaphandrier? Je vois une soupe très pure. Je vois des rires et des deuils. Une oasis près d'un écueil. Mais ton habit scaphandrier est dans le cerveau de ma blonde. Va descendre, que vois-tu? Il est descendu, descendu, et dans les profondeurs.
Sympathise formidablement. J'avais des émissions à Radio Monte-Carlo, on les fait ensemble. Et on fait deux émissions en particulier, Carrefour des chansons perdues. Et puis l'autre, c'était Des goûts et des couleurs. Bon, alors tout ça a marché très bien, jusqu'au jour où Claude Dauphin et Jean Noin m'ont demandé de revenir à Paris pour jouer le bal des pompiers, à la place de Claude qui avait des contrats en Belgique. Quelques temps après, j'ai ouvert à Saint-Germain-des-Prés mon premier cabaret, le Côte Libette. Et je me suis dit, il faut faire venir Ferré, il n'y a pas de question. D'autant plus que lui-même avait eu l'idée de monter à Paris parce qu'il sentait bien qu'à Monte-Carlo, c'était tout de même très limité. Alors j'ai donc fait venir Léo, qui chantait ses chansons, qui a fait un triomphe tout de suite, sauf quand il engueulait le public, bien entendu, ce qui me permettait de me battre, parce que lui, il était à son piano. C'était moi qui étais obligé de virer les gens, parce qu'il y avait quelquefois des malentendus. Et ça marchait formidablement bien. Quand je suis allé au Miller Larsouille, évidemment, il m'a suivi. Et puis finalement, nous sommes partis du Miller Larsouille et on est allé en transfuge au quartier latin. On a ouvert une boîte qui s'appelait Le Trou.
C'était un gars qui avait du cran, il croyait plus au boniment. Il avait même l'air d'un apôtre, on se laissait dire qu'il buvait de trop. Qu'il ne lisait jamais les journaux, ce qu'on parlait toujours des autres. Et chaque soir, comme un Jésus qui prêchait des choses qu'on ne sait plus, dans un bastringue sans importance, il s'asseyait majestueux pour écouter les larmes aux yeux, un air qui sentait bon la France. C'était une rengaine d'amour qui lui rappelait les beaux jours passés dans la gloire. Lui faisait des choses dans le dos, comme lorsqu'il montait à l'assaut, pour je ne sais quelle victoire. Il revoyait tous ses amis, qui plein de joie étaient partis, pour une lointaine chimère, avec une rengaine d'amour, qui leur faisait croire au beau jour. Adieu les copains de naguère. Il n'aimait plus le genre humain qui était devenu un genre pas bien. Depuis des aventures bizarres et la sagesse lui faisant défaut. Comme il était assez costaud, il cherchait toujours la bagarre. Alors, histoire de se faire la main, il faisait passer le goût du pain à un monsieur de sa connaissance qui avait osé rigoler de lui. Dans le bistrot tout rempli d'ennui, l'on jouait un air de France. C'était une rengaine d'amour qui lui rappelait les beaux jours. Les beaux jours gâchés par la peine. Il revoyait sa petite maison qu'avait disparu son passant. Un jour qu'il n'avait pas eu de veine. Il savait bien que le bon Dieu est un brave type qui fait de son mieux. Mais faut pas être trop difficile avec une rengaine d'amour. On peut se fabriquer des beaux jours pourvu qu'on sache se tenir tranquille. Un soir, sans qu'on ait su pourquoi, un étranger, un maladroit, lui mit le nez dans sa misère et parce qu'il se dégonflait jamais. Au malotru qu'avait parlé, fit une large boutonnière. C'est ainsi que finit le roman de ce pauvre garçon qu'avait du cran, jusqu'à nier les évidences. Et l'on apprit par les journaux qu'il reçut 12 balles dans la peau pour avoir trop aimé la France. Fini la rengaine d'amour, fini le souvenir des beaux jours. Des beaux jours passés dans le courage. Si cette histoire nous fait pleurer, ça ne nous empêche pas de la chanter, car ce serait vraiment dommage. Nous reverrons tous nos amis qui pleins de joie étaient partis en se donnant la comédie. Avec une rengaine d'amour qui leur faisait croire au beau jour, au diable la géographie.
La rengaine d'amour, chantée lors d'une émission du Comité national des écrivains le 15 juillet 1948, dans le cadre d'une série de rendez-vous hebdomadaires consacrée à Léo Ferré et à ses interprètes. C'est dire combien Ferré était bien planté sur les planches du Quartier Latin de l'après-guerre. Mais en même temps, ce Ferré diffusé sur les ondes n'a pas encore enregistré. Ce cap du disque intervient en 1950. Le Chant du Monde, maison plutôt communisante, lui donne alors sa chance avec une série de 78 tours qui comprennent notamment L'Inconnu de Londres, Le Bateau Espagnol, La Chanson du Scaphandrier, La Vie d'Artiste et La Femme Adultère. Et puis encore Monsieur William sur un texte de Jean-Roger Cossimon, complice d'écriture depuis 1946. Saint-Germain-des-Prés, effervescence intellectuelle et artistique, révolution, existentialisme sartrien. Cette ébullition germano-pratine, Ferré en est une figure. Mais une figure à part, une figure minoritaire, anarchiste, envers et contre tout, noir plutôt que rouge. En 1950, d'ailleurs, le Chant du Monde lui refuse de graver Les Roses Rouges. La chanson est anticommuniste. Ferré l'assume parfaitement. Tant pis, dira-t-il. En ces temps où un philo-communisme béat occupait une bonne partie de l'intelligentsia, il n'était assurément pas de bon ton d'écorcher la statue de Staline de quelque manière que ce soit. Un Ferré politique donc, mais libre. Refus des prisons et des chapelles, quelles qu'elles soient. On aura bien compris pourquoi Ferré est d'abord un révolté. Ce qui ne l'empêchait pas, en 1949, d'être déjà le poète que l'on sait, et de trousser pour Salvador, oui, pour Henri Salvador, une très belle ode à Saint-Germain-des-Prés, interprétée avec toute la sobriété qui dévoile les vrais talents.
J'habite à Saint-Germain-des-Prés. Et tous les soirs, j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé. Et pour courir le Guilledou près de la Seine, souvent l'on est flanqué d'Apollinaire. Qui s'en vient musarder chez nos misères, c'est belle. On voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop cochés. Regardez-les tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs emblèmes. Regardez-les tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien les rêves quand même. Ils parlent le latin et non plus fin. Ah, Saint-Germain-des-Prés, vous qui passez rue d'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y songer, saluons-les à Saint-Germain-des-Prés.
Vous savez, Léo Ferré, vous avez un public qui vous aime beaucoup, qui aime beaucoup vos chansons. Je crois que tout le monde aime vos chansons. Mais peut-être, parfois, lorsque vous expliquez les choses, vous avez peut-être trop tendance à déborder et à être violent. Vous ne le pensez pas?
Mais quand on se révolte, monsieur, on déborde forcément, on est forcément violent. C'est comme je disais l'autre jour à quelqu'un qui me parlait de la révolution, je lui disais, la révolution, ça se fait pas en pendis, c'était une dame, ça se fait pas en pendis, madame. La révolution, ça se fait avec des bombes, avec des armes. Sinon, c'est pas la révolution. La révolution, ça se fait pas avec un programme dans la poche, ça se fait d'abord avec beaucoup d'amour, et hélas, avec de la casse. Allez, c'est tout.
Les bombes, évidemment, Léo Ferré n'avait pas du tout l'intention d'en lancer, il le précisera à Jacques Chancel. Cela ne l'empêchait pas de contresigner son attachement et son droit à l'anarchie, Léo Ferré, en 1975.
Vous savez, les anarchistes, c'est, moi j'en connais un ou deux, ils sont seuls, vous savez, ils sont souriants, ils sont seuls. Dès qu'il y en a deux, ça commence à être dangereux. À trois, c'est la guerre, n'est-ce pas? Les anarchistes, vous savez, l'anarchie, c'est Larousse, c'est facile. Quel monsieur de Larousse, là, il ne me contredira pas. Et un jour, on parlait tellement de l'anarchie, d'ailleurs j'emploie plus ce mot-là parce que les gens ne savent plus ce que c'est. L'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un, en tout cas pas dans mon entourage, qui me dise « j'aime les coups de pied au cul, j'aime qu'on me dise « il faut faire ça, j'aime la règle, j'aime la loi ». Non, personne, n'est-ce pas? Il y a des hommes politiques qui aiment la loi parce qu'elle les arrange.
Eh bien, dans la vie, il y a des graines qu'il n'est pas recommandé de semer. J'en connais une. C'est une graine d'homme. De ces hommes qu'on appelle les anards. En voici un que j'ai appelé graine d'ananar.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier. Pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard. La graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Autant se d'oubli, l'oiseau fait son nid. Messieurs les corbeaux passeront ma peau comme elle est amie. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Non. Je ne comprends pas pourquoi les anarchistes se sont haïs. Ce sont les gens les plus généreux qui soient. Vraiment. J'ai connu deux anarchistes, moi. Des vrais. Ils habitaient chacun dans une maison dans le centre de la France. Un peu dans la montagne. Ils avaient chacun un chien. Et un autre était avec, non pas sa femme, pas encore, avec sa compagne, comme disent les anarchistes. Et un jour, celui-là, il s'est marié. Alors ça a été le foutoir. Il s'est séparé de sa compagne, qui était devenue sa femme. L'anarchie, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est la négation de tout pouvoir d'où qu'ils viennent. Et tout à l'heure, j'étais dans un restaurant, je suis sorti. J'ai eu une espèce de gros dondon, une espèce de grosse, horrible chose. Une femme énorme, dégueulasse. Et quand je suis sorti, il dit, voilà, anarchiste, je vous crache dessus. Elle m'a dit, alors, c'est fantastique, ça. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de vivre. Et on tue ceux qui ont le droit de vivre. Voilà, c'est comme ça. Je pense que, je me demande s'il y a des choses qui ont changé aujourd'hui. Quand même un peu. Mais pas tellement, vis-à-vis des anarchistes. Vive l'anarchie.
Il y en a pas un sur cent qui existe, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves en mutant, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent, la plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de. Les anarchistes, ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer, par les coups de pied au cul. Faudrait pas oublier, ça descend dans la rue. Ils ont un drapeau noir en perle sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Canapin sur sang et content, ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Le 10 mai 68, et il y a une chose qui m'a frappé, et ça je le dis parce que j'en suis encore tout ému, j'ai vu dans la rue, boulevard, là, devant la mutualité, où je devais vous chanter le soir pour la fédération anarchiste, des étudiants et des profs qui défilaient avant la grande nuit, qui a été la grande nuit qui a commencé tout le spectacle 68, quand je dis spectacle, je veux qu'on m'entende, c'est-à-dire spectacle pour les gens qui ont regardé ça avec terreur et le spectacle pour les gens qui le faisaient eux-mêmes et qui étaient en même temps spectacle dans la rue, n'est-ce pas? Et c'était grandiose. Et j'ai vu les profs et les étudiants avec les drapeaux rouges et pour la première fois des drapeaux noirs. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça a passé, ça a duré le temps de 68, le temps où il a été nécessaire à tous ces gens d'être les acteurs de 68, mais qui ont laissé derrière eux ce 68 immense et provocant encore, qui est beaucoup plus important, à mon sens, que 89, car 68, ça a été la révolte de l'intelligence, et comme disait un copain que j'avais, et qui avait trouvé le sens exact, la révolte collective de l'intelligence, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'il y avait la révolte collective de l'intelligence. Je veux dire ça en commençant, parce que 68, c'est important pour tous, pour tout le monde, et pour moi aussi.
La révolution, ça dérange. La révolution, ça s'arrange. La révolution, ça s'explique. Et quand ça s'explique, ça se complique. Et ça se met dans une commission. Et ça se met dans une commission de l'armée de préférence. Et dit Sanguinetti, qui est-ce que tu l'as dit? C'est un Corse, et non, c'est un gaullisme. La télévision, ça se vise. La télévision, ça divise. La télévision, ça litige. Et quand ça litige, ça se corrige. Ça se met dans un communiqué. Ça se met dans un communiqué. Trafiqué de préférence. Eh, dis, ce Finaltelli, c'est celui-là encore. C'est un Corse, c'est un gaulliste. La révolution, c'est pratique. La révolution, ça oblige. Ça tombe comme ça peut et ça prête. Et quand ça prête trop, ça s'achète. Ça se met dans une augmentation. Ça se met dans une augmentation du fumier de préférence. Ortoli! Ortoli! Qui est-ce lui alors? Dit, c'est un gaulliste? Non! C'est un ministre! La révolution tralalère, la révolution tralalère, la révolution tralalère. Quand ça tralalère trop, ça se casse, ça se met dans un coin à glander, ça se met dans un coin à glander pour longtemps, préférence. Et tous ces mecs qu'on voit plus, dit, qui c'était ça? C'était des... Non, c'était peut-être des... Non, 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 non. Et alors, qui c'était? C'était des journalistes honnêtes.
Après Graines d'ananas, chanson manifeste enregistrée à l'Olympia en 1955, nous entendions Les Anarchistes, chanson très antifranquiste, et puis La Révolution, l'une et l'autre enregistrée en concert à Bobino le 2 février 1969. Vous l'avez entendu, l'ambiance qui règne dans le concert laisse bien transpirer la passion qui anime une partie des spectateurs. Et puis Ferré lui-même est d'une présence combative, très anti-gaulliste. Ferré, la dent dure. C'est vrai qu'il y a eu même 1968. Et Ferré y est viscéralement attaché, il nous l'a dit. Comme un père un peu, comme un patriarche, même s'il n'a que 52 ans, regardant, heureux, ses ouailles s'attaquer sans vergogne à la face nord de la République gaulienne. De ce paternalisme bienveillant, il tirera même une chanson pétrie de tendresse pour la génération de mai, l'été 68. De pleine évidence, la révolte de 1968 fut un bain de jouvence pour Léo Ferré, en un double sens. Tout d'abord, elle le confortait intimement dans sa conduite, et puis, plus pratiquement, lui qui ne dédaignait pas le succès, le vent de contestation du moment lui apportait de très nombreux nouveaux fidèles. Convoquons, pour mieux nous en imprégner, un vieux compère, Maurice Frot, rencontré au début des années 1950 et qui offrait sa mémoire au micro de Philippe Lefebvre peu après la disparition de Léo Ferré.
Et évidemment, il y a eu mai 68 à ce moment-là. Je me souviens, on avait un gala à la Mutualité le 10 mai, on était en train de casser une croûte, manger un sandwich sur un bistrot de la rue Monge, là. Et les mecs, c'est la première fois que j'ai vu défiler des drapeaux noirs. Et les mecs, Ferré, avec nous. Ils disaient, mais je peux pas, moi j'ai un gala là, dans une heure, etc. Et là a commencé le Léo. Léo, il n'a pas pris le train en route. Hein. La plupart des chansons qu'il chante là, pas comme une fille, mais les anarchistes et ni Dieu ni maître et tout ça, ça datait de bien avant. Il sauf savait. Que et tout d'un coup, il s'est trouvé en conjonction avec son temps. Quoi.
La cigarette sans cravate, on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu. Fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Que l'on dit de justice et qui pousse dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître.
Ni Dieu ni Maître, toujours en ce mémorable concert de Bobino en 1969. De Dieu et de Maître, Ferré n'en eut pas, cela ne l'empêchait pas au reste, et c'est une autre facette de sa personnalité de rester potache. Ferré, c'est aussi un sens de l'humour, au vitriol, surtout quand la censure en fait les frais. Témoin cette courte charge contre les producteurs de disques.
Alors, mademoiselle, Jeannette, venez, c'est la secrétaire. Jeannette,
oui monsieur,
donnez-moi un peu le contrat. Préparez-moi le contrat, comme d'habitude, oui, tout est à nous, tout ça, même ce qui n'est pas à nous est à nous aussi. Allons, marche comme ça, hein. Et puis le titre que m'a donné ce jeune guitariste-là, allez dire à celle que j'aime que l'argent n'est pas le bonheur, allez dire, il faut couper, là, c'est pas, allez dire à celle que j'aime, après on coupe, là, hein. Allez dire à celle que, non, elle parle. Allez dire à celle que j'aime. Non, coupez. Allez dire à celle que... Coupez. Allez dire à... Coupez. Allez dire... Coupez. Allez, coupez. Ah voilà. Ça va très bien. Et allez, tous sur le pont.
Moi je suis du tango, même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique. Costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado. J'en ai passé de beaux dimanches, des belles venaient en avalanche et vous offraient comme un cadeau. Rondeur du sein et de la hanche pour qu'on leur fasse danser le tango. Ces mômes-là, faut pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Mesdames, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Si par hasard et sans manière le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. À ce que les femmes ont pu me plaire, et ce que j'ai plu, j'étais si beau. Faudrait pouvoir faire marche arrière, comme on le fait pour danser le tango. Des tangos, il y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta, c'est si joli quand on le chante. Surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins du bal, tout un manège d'étoiles filantes. Alors c'était plus Valentine, c'était plus Loulou, ni Margot, dont je serrais la taille fine. C'était la reine de l'Argentine, et moi j'étais son Hidalgo. Oeil de velours et ma caline, à ce que j'aimais danser le tango. Mais doucement passent les jours, adieu la jeunesse et l'amour, les petites mômes et les je t'aime. On laisse la place et c'est normal, chacun son tour d'aller au bal, faut pas que ça soit toujours au même. Le cœur, ça se dit corazón en espagnol, dans les tangos. Et dans mon cœur, ce mot résonne, et sur le boulevard, en automne, en passant près du Mikado, je ne m'arrête plus, mais je fredonne. C'était battre le temps du tango. C'était battre le temps du tango.
Ces premiers greniers de Léo Ferré, le révolté, se referment sur ce temps du tango gravé en 1957. Greniers qui vous étaient proposés par Christine Amado à la réalisation, Laurent Joly, Anne Lorveille, Alina, Karine Le